I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Bienvenue au Jardin de Parole, une émission de votre hôte Michel Giroux. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de C.F. Ramu. Vous souvenez-vous de cet écrivain suisse? Peut-être êtes-vous trop jeune pour vous en souvenir. Alors vous allez le découvrir. Quel bonheur, découvrir un écrivain. C.F. Ramu. Ça s'écrit R-A-M-U-Z, mais on ne prononce pas le Z. Comme pour Camus, on ne prononce pas le S. Donc pour Ramu, on ne prononce pas le Z. En réalité, il s'appelle Charles-Ferdinand Ramu. Mais il n'aimait pas son nom. Il disait que c'était un nom d'archiduc. Alors il l'avait abrégé en C.F. Ramu. Il est né en 1878. Il mourra en 1947. Entre-temps, il aura vécu à Paris et rencontré les écrivains du Paris des années 1900. Que découvre-t-il de très important lors de son séjour parisien? Il redécouvre les charmes de sa propre langue, le vaudois. Il apprend, grâce à cette langue, à s'affirmer en tant que vaudois. C'est désormais cette langue qu'il va travailler, mettre en avant. C'est grâce à elle qu'il fera vivre ses personnages, qu'il fera évoluer le roman. Il écrit un jour, « Nous avions deux langues, une qui passait pour la bonne, mais dont nous nous servions mal, parce qu'elle n'était pas à nous, l'autre qui était soi-disant pleine de fautes, mais dont nous nous servions bien, parce qu'elle était à nous. » Cette langue dont il se servait bien, c'est bien sûr la langue, le français que l'on parle en Suisse. En 1903, il publie un premier recueil de poèmes, Le Petit Village. 1914, il se marie avec une artiste peintre. Il quitte Paris avant la Première Guerre mondiale, retourne en Suisse, et là, il va collaborer avec Igor Stravinsky. Ils nous offriront tous les deux l'histoire du soldat. Dès lors, son style s'affirme. Ses écrits cessent d'être explicatifs. Ils acquièrent une portée plus épique. Les thèmes deviennent plus sombres, mais aussi plus spirituels. Sa langue se fait beaucoup plus directe. En 1919, il publie « Les signes parmi nous », le livre dont je vous lirai de larges extraits dans quelques instants. Son travail sur la langue, sur le français, parlé dans le pays de Vaud, pourrait le faire considérer comme un écrivain régionaliste du terroir. Et effectivement, il va rencontrer d'autres écrivains comme Henri Pourrat, d'autres écrivains régionaux. Mais ses romans vont au-delà. Il essaie, en partant du particulier, c'est-à-dire les paysans du pays vaudois, les montagnards du pays vaudois, d'accéder à l'universel. Ses romans ne sont pas organisés autour d'un personnage, mais autour d'une communauté. Quelques titres que vous pouvez connaître et qui méritent d'être lus. D'Herborance en 1925, La grande peur dans la montagne, 1934. D'Herborance, je l'ai lu au lycée, ou peut-être en troisième au collège. C'est un souvenir que je dois à mon professeur de français de l'époque, M. Luc. Un prof dont j'ai un heureux souvenir. Passons donc au livre que je veux vous faire découvrir aujourd'hui de C.F. Ramu, je vous le rappelle. Il s'intitule « Les signes parmi nous ». C'est chez Grasset, c'était la 7e édition. Je l'ai découvert récemment. On pourrait penser au début qu'il s'agit de l'histoire d'un personnage qu'on va suivre du début à la fin, nommé Kai. Mais on va l'abandonner assez vite. Kai est un colporteur biblique. On est en 1918. Il longe le lac, sans doute le lac Léman. Il arrive dans un village de pêcheurs et de vignerons. Alentour, c'est la guerre en France. Là-bas, c'est la grippe espagnole. Mais elle est déjà là, les premiers signes apparaissent. On a ouvert une verrerie. On a fait venir des ouvriers étrangers. Ils sont mal payés. Ils travaillent dans des conditions horribles. La grève menace. L'orage menace. Je vais vous lire un extrait, page 17. Drôle de temps que c'est, et plein de contradictions, n'est-ce pas? Les uns ont tout, les autres rien. On cherche à comprendre. Quand on voit la moisson qu'on aura cette année, on n'arrive pas à se représenter qu'il y ait des pays où on meurt de faim. On dit que le marc est à 66, et partout la puissance d'achat de l'argent a diminué au moins de la moitié. Nous, notre argent est en terre. Or, la terre a doublé de prix. On dit qu'il y a des famines un peu partout dans le monde. Nulle part ici, la famine n'est criée. Bien au contraire, comme vous voyez, c'est l'abondance qui est criée. Partout les champs qui la déclarent. Roses d'esparcette, gris d'avoine, ou d'avance couleur de pain à cause du blé qui a bruni. On dit également qu'il y a beaucoup de maladies dans le pays, terriblement de maladies. Mais disent les gens incrédules, est-ce qu'il n'y en a pas toujours eu? Et est-ce que les savants dans les journaux n'annoncent pas qu'il faut s'attendre tous les 20 ou 30 ans à ces retours d'épidémie? Tous ces signes sont interprétés par notre colporteur biblique, qui va de maison en maison proposer sa revue qui s'intitule « La parole ». Il tient des discours, comment dit-on aujourd'hui, catastrophistes, collapsistes? Oui, il semble que tous les gens de cette contrée acceptent cette interprétation. Tout le monde a peur et le lecteur éprouve physiquement la peur qui se répand à travers toutes les têtes, tous les cœurs. Car on abandonne assez vite Kai. En apparence, il suit son chemin. On le retrouvera régulièrement dans une maison, dans une rue, à une porte. L'auteur nous installe près d'une femme qui écosse des pois, puis près d'un cheminot couché contre un talus, près d'un homme qui aiguise sa faux, près d'un menuisier. Je vais vous lire les pages 27. Le menuisier était un nommé Vert et était socialiste. Vert le regarda venir par les petits carreaux qui étaient à côté de lui, puis trempant son tampon dans un bol ébréché où était un liquide d'un brun rougeâtre, il s'est remis à frotter un panneau de noyer qu'il était en train de dérepolir, après l'avoir raclé et passé au papier de verre. On entend la cuve derrière le vitrage continuer à gronder et à chanter. Lui étend du silence sous le tampon avec la politure, qui est un liquide gluant, et se pose par petits cercles auxquels on revient sans fin en appuyant de plus en plus. Point de bruit. La seule musique d'ici est celle du chardonneret dans sa cage. L'atelier est un endroit calme et qui serait bien éclairé si on n'avait pas remplacé les carreaux cassés par des feuilles de verre d'emballage. Le verre, on n'y peut plus songer d'hiver. Rien que la vie des hommes au jour d'aujourd'hui qui soit pour rien. Il regarda Kai. « Mais entrez, entrez seulement, on n'a pas peur de discuter nous autres. On n'a rien contre vos brochures. Toute l'affaire est de savoir avec qui vous êtes et pour qui vous êtes. Posez-moi ça sur l'établi. » Enfin, l'orage éclate. Page 162. Le bruit qu'il y a, c'est les espagnolettes, parce qu'on ferme les fenêtres partout à la fois. On a vu la grande affiche du cirque Muller qui est à moitié décollée, parce qu'il y a longtemps que les représentations ont eu lieu. Être soulevée par le coin, et elle s'est mise à flotter devant le mur comme un drapeau, avec Mademoiselle Olga en maillot rouge et veste à brandebourg qui se dandine sur son cheval. On a vu passer des vols de feuilles vertes, ou bien si c'était des étourneaux, et dégringole premièrement la cheminée du boulanger Prin, qui est un simple tuyau de tôle d'au moins 4 mètres de haut. On lui disait bien, elle ne tiendra pas. Une tuile, une autre tuile, heureusement qu'il n'y avait personne dessous. Voilà Kai qui sort encore d'une allée, puis une grande fille qui court, son tablier sur la tête. C'est Adèle. Où est-ce qu'elle va? Alors on commençait aussi à dégringoler. Se poussant l'un l'autre, les planches qui étaient appuyées contre la remise du charron. Il y avait parmi les gros plateaux de frênes. Drôle qu'ils ne fassent pas plus de bruit. C'est à cause du bruit que fait le lac. Un arrosoir qu'on avait laissé sur le mur roule à 10 mètres. Une branche de prunier qui vient de casser garde quand même sa position et reste posée à plat sur le courant de l'air. Et les claquements encore d'un ou deux contrevents qui battent. Mais même ces claquements ne sont plus entendus. Tout est recouvert par le lac. Non plus ses coups de pied d'avant. comme si un fleuve tombait à côté de vous de très haut. Pourtant, malgré l'orage, une jeune fille, Adèle, est sortie rejoindre son ami Jules. Son petit ami Jules, page 189-190. Alors sa mère lui a dit « Comment tu sors par ce temps-là ? Oh, c'est tout près, je n'aurai qu'à courir !» Et elle s'était échappée. C'était le moment où on commençait à tirer contre la grêle, et toute espèce de lumière s'étant éteinte, elle marchait comme dans de la nuit. Il avait sonné 6 heures. Un grand silence s'était fait, où on entendait seulement le lac qui venait, à coups sourds et encore espacés, ébranlant le sol au-dessous de vous. Elle prend un chemin qu'elle quitte pour en prendre un autre, parce que c'est prudent, mais il n'y avait plus personne sur les chemins, ni dans les champs, et c'est une chance quand même. Puis les premières grosses ou larges gouttes sont tombées. Mais c'est simple, parce qu'elle a relevé sa jupe par-dessus sa tête et puis s'est mise à courir derrière les haies qui la cachaient. C'était dans les arbres, un fenil fermé, qui sont que continués par une espèce de hangar tout ouvert sur ses 3 côtés. Elle est entrée sous le hangar. Elle voit qu'il n'est pas encore là. Un premier éclair était alors venu. Il était rose. Elle s'était assise de manière à tourner le dos aux éclairs, mais chaque fois qu'il en venait un, toute la pente devant elle était illuminée à cause de l'obscurité. Un second éclair venait déjà, il était jaune. Alors elle avait mis sa figure dans ses mains, et c'est ainsi qu'elle ne l'a pas vu venir, et elle ne l'a pas entendu venir non plus, l'averse ayant redoublé de violence, qui tout à coup a été là. « Coucou ! Oh mon Dieu, c'est toi ? Je croyais que tu ne viendrais pas. »« Tu vois bien que oui, et je suis à l'heure. » Il tire sa montre. Il n'est même pas la demi. C'est que j'étais inquiète. Inquiète de quoi ? Ah voilà, tu ne vois pas ? Et elle baisse tout à coup la tête. Et toute la journée déjà. Peut-être que c'était l'orage. J'avais peur que tu ne viennes pas. Et même, j'ai passé chez le maréchal pour tâcher de savoir ce que tu comptais faire. On m'avait dit que tu y étais. Chez le maréchal Ferrand, tu es folle, puisque je t'avais dit que je viendrais. Allons petite, qu'est-ce que tu as ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Elle devrait parler très fort, et lui aussi. Oh, pas bien loin. Vous devinez qu'après la tension de la tempête vient le calme des lendemains d'orage. L'électricité revient, le jour revient, chacun retourne à ses activités, Caille aussi, page 211. Et la ville bâtie en carré avait été ôtée de devant eux, laissant la place à ce triste séjour terrestre. Mais c'est sans doute que les temps qui sont dits ne sont pas encore venus. Il faut savoir accepter, il faut savoir prendre patience. Il est écrit « Personne ne sait le jour ni l'heure ». Caille avait pris congé. Mais le dernier mot, ce n'est pas lui qui l'a, c'est le couple d'amoureux. La dernière phrase, on parle souvent de la première phrase d'un roman de Linkin Park qui serait ceci, qui serait cela, mais la dernière phrase, je la trouve très émouvante celle-ci. Jules regarde Adèle partir. Elle est arrivée à l'angle de la haie, et un tout petit moment encore, elle a été là dans ce gris de lune. Elle lui a fait signe de la main encore une fois. Elle n'a plus été là. Chers auditeurs, chères auditrices, vraiment, je vous invite à lire les romans de C.F. Ramus, d'Herborance, La Grande Peur dans la Montagne, ou le livre que je viens d'évoquer, Les Signes parmi nous. Je pense que c'est un livre, un récit, pour nous en ces temps troublés. Il m'a saisi, j'ai éprouvé physiquement la tension qui monte avant l'orage et la détente brusque qui suit. J'aime la fin, je ne sais pas vraiment pourquoi, je n'ai peut-être pas envie de tout savoir. Je la relis. Et un tout petit moment encore, elle a été là dans ce gris de lune. Elle lui a fait signe de la main encore une fois. Elle n'a plus été là. Je vous laisse là, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Grand Ciel. À bientôt. Moi non plus, je ne suis déjà plus là.